Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Nous sommes avec Adey Maïga, qui est présidente de IGDA, également présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger. Vous êtes à Ménaka, au Mali. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Alors, il y a eu beaucoup de déplacements, notamment dans la région, donc avec les avancées des groupes djihadistes. Est-ce que vous pourriez nous dresser un plan de la situation actuellement?
La situation de Ménaka, elle est très critique parce qu'il y a beaucoup de déplacés avec les islamistes qui avancent parce que toutes les bourses sont vides. Ils ont chassé tout le monde de la bourse, donc tout le monde est à Ménaka. Donc la situation est très critique. Après Andrabouka, maintenant c'est Kidermen qui est en train de rejoindre Ménaka. Il y a tellement de déplacés, je ne peux pas vous dire exact les noms bien. Je sais qu'il y a beaucoup de déplacés parce que partout, sur les dunes, sur les arbres, partout il y a des tentes, les gens sont partout à Ménaka. Vous savez, quand il y a conflit, c'est toujours la femme qui souffre. C'est elle qui perd son mari, c'est elle qui perd son fils, c'est elle qui a les orphelins, c'est elle qui devient de vivre. Elles ont tout perdu, elles n'ont plus rien. Elles n'ont aucun soutien. L'État fait des donations de temps en temps, mais ça ne suffit pas. Et moi aussi, étant une femme de Ménaka, j'ai l'habitude de faire des donations de temps en temps à travers des mouvements qui me soutiennent, comme les mouvements Ambiko, qui nous donnent des vivres pour les déplacer. Et même actuellement, là, je suis en train de faire la collecte des habits, des chaussures, beaucoup de choses pour essayer de les acheminer.
Et donc, vous-même, à travers votre association, IGDA, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette association?
Bien sûr, IGDA est une association qui est implantée partout au Mali, de Kayes jusqu'à Ménaka. C'est uniquement des femmes qui œuvrent dans la paix. C'est des femmes qui sont retrouvées de tous bords, du sud au nord, qui ne parlent que de paix et de vivre ensemble. On a l'habitude aussi de faire des rencontres intercommunautaires pour échanger entre les gens, entre les communautés, pour essayer de les mettre ensemble. Actuellement, là où on est, il y a les moyens qui nous manquent beaucoup. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants sont là dans la rue. Donc maintenant, notre seul souci, comment essayer de prendre les enfants là en charge et puis de les mettre à l'école. Parce que quand on va laisser les enfants dans la rue comme ça, c'est une autre catastrophe. Déjà, ils ont perdu leurs parents. Ils sont en train de rire dans la rue, en train de marcher. Il faut qu'on nous aide pour essayer de les cadrer pour l'année prochaine, pour les scolariser, les mettre à l'école, pour éviter des délinquants de la rue.
Adey Maïga, vous êtes présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger. La paix n'est pas revenue. Donc, qu'auriez-vous à dire sur cet accord?
Ce que j'ai à dire sur cet accord, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà une main invisible. Maintenant, il faut que les mouvements mettent de l'eau dans leurs veines pour savoir qu'aujourd'hui, il y a un autre maître sur le terrain qui n'est pas les mouvements. Les mouvements même n'arrivent plus à maîtriser le terrain. Personne ne maîtrise le terrain maintenant. Donc, on est obligé entre nous, des Maliens, de se donner la main puis de changer pour essayer de voir comment on va gérer la situation. Actuellement, il n'y a aucun mouvement qui gère qui sur le terrain. Les islamistes qui sont en train de les faire la guerre. C'est les populations qui souffrent. Donc, on est obligé de revenir sur la table de négociation pour échanger avec l'État. Il y a certains de nos mouvements qui ont créé la panique au Mali. Aujourd'hui, ils sont là, maintenant, ils ne peuvent plus régler. Ils sont plus maîtres de terrain, ils ont été chassés de leur village. Les bourses sont complètement cerclées. Mais Ménaka, il faut qu'on mette les moyens pour ne pas donner l'occasion aux gens de s'accaparer des Ménaka.
Quelles sont les répercussions sur les femmes et sur les enfants de cette situation?
Bon, vous savez, quand il y a un conflit, c'est la femme qui est perdante. Nous, les femmes du Nord, on n'a pas fait grandes études. On n'a pas été à l'école, on se débrouille. Même moi, quand j'étais en train de te parler, je me débrouille. Une femme qui perd son mari, qui perd son enfant, tu n'as plus de soutien, tu n'as pas de boulot, comment tu vas vivre? Une femme qui va se retrouver avec 5 à 6 orphelins, comment tu vas survenir aux besoins de tes enfants-là? Comment tu vas éduquer les enfants-là? Tu n'as rien, tu ne travailles pas. Il y a des femmes qui sont complètement ménagées, elles n'ont absolument rien. Elles ne savent pas ni faire du commerce, ni rien. Elles ne connaissent que l'élevage. Et les animaux aussi sont tous, ils ont amené tous les animaux. Elles ne connaissent rien, si ce n'est pas l'élevage, elles ont leur lait, elles utilisent leur lait. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'animaux pour avoir du lait, il n'y a plus rien. Elles sont obligées de s'adapter à la vie sédentaire. Et la vie sédentaire, puis la vie normale, c'est pas la même chose. On est obligé de venir en ville pour faire comme les sédentaires, pour essayer de faire les jardins, pour essayer de faire les maraîchages. On est obligé parce qu'on n'a plus le choix.
Merci beaucoup Adey Maïga, vous êtes présidente de IGDA, vous êtes également présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger à Ménaka au Mali. On vous dit à très bientôt et bon courage.
Merci.
Avoir un enfant hors mariage est souvent synonyme d'exclusion et de précarité. Les mères célibataires sont confrontées à de nombreuses difficultés, encore plus quand elles ont été rejetées par leur propre famille ou si elles viennent d'un autre pays et se retrouvent isolées, comme Madeleine Massengou, originaire de la République démocratique du Congo. Son histoire est relatée par Alison Fernandez, qu'il a rencontrée dans la banlieue de Dakar.
Dans le quartier de Guédiawaye, en banlieue de Dakar, Madeleine Massengou prépare son fils pour l'école. Originaire du Congo Kinshasa, elle est arrivée au Sénégal il y a 5 ans, au terme d'un périple éprouvant. Une fois à Dakar, Madeleine se retrouve rapidement à la rue avec ses deux enfants, alors âgés de 8 ans et 8 mois. Malgré les épreuves et les mises en garde de ses proches, pas question pour Madeleine d'abandonner ses enfants.
Je voulais être mère et responsable pour les enfants. Je ne vais pas voir les enfants souffrir. Parce que si les enfants souffrent, ils souffrent l'autre jour, tu vas les payer. Tu as compris? Mais les enfants sont fait rien. Les enfants sont fait rien. C'est pour cela que j'ai dit, je vais garder mes enfants. C'est que je vais manger, je mange avec mes enfants. Même quelles conditions, je vais rester avec mes enfants.
Aujourd'hui, Madeleine a surmonté de nombreuses difficultés, surtout grâce à l'aide de la Maison Rose, une structure associative où elle a vécu pendant plus de 2 ans avec ses enfants. Madeleine a pu y suivre une formation en pâtisserie et aujourd'hui, elle travaille pour une chaîne de restauration rapide. Malheureusement, ses difficultés économiques persistent. Son maigre salaire mensuel de 60 000 francs CFA, soit moins de 100 dollars, ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses de son foyer.
Mon salaire, ça n'arrive pas, même pour nourrir les enfants jusqu'à fin du mois. Parce que j'ai payé le loyer et j'ai payé l'enfant à l'école. J'ai resté avec tout petit comme 10 000 francs comme ça. Pour 10 000 francs comme ça, pour que je puisse payer les enfants les transports et matin acheter quelque chose à manger comme j'ai acheté l'autre jour. Là. Mais ça n'arrive pas, c'est difficile ou quoi? C'est tellement difficile.
Partout dans le monde, les familles monoparentales sont particulièrement exposées à la précarité. C'est bien sûr le cas au Sénégal, où le taux de pauvreté s'élève à plus de 37%, selon des chiffres officiels datant de 2019. Alors, Madeleine continue régulièrement à se rendre à la Maison Rose, où elle reçoit de l'aide matérielle et un accompagnement.
Et ta fille, comment elle fait? Parce qu'elle, elle est adolescente. Hein.
Presque toutes les femmes, soit elles repartent dans leur famille, où là, c'est plus un problème, parce qu'elles sont dans la maison avec les autres, donc là, il n'y a pas de problème. Mais dès que... elles sont autonomes, elles sont dans notre pays où on les a jetées dehors et tout ça, où il faut trouver une chambre, c'est terrible. C'est terrible. Mmh. Ça, c'est un vrai problème au Sénégal, de pouvoir survivre, je dis survivre.
Créée en 2008, la Maison Rose se veut un cocon protecteur, un lieu destiné à la reconstruction et même à la renaissance de ces femmes en situation de grande vulnérabilité. Plus de 200 bébés y ont vu le jour. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
En Angola, Moussaka Fernanda est une agricultrice qui travaille la terre pour nourrir sa famille. Mais avec les effets du changement climatique et l'absence de son mari forcé de partir, il est devenu de plus en plus difficile pour elle de subvenir aux besoins de ses nombreux enfants. Blanche Sanou nous raconte les journées épuisantes de Moussaka qui n'a d'autre choix que de tenir bon.
La sécheresse, les pluies torrentielles et les graves inondations ont dévasté les terres agricoles du sud de l'Angola depuis une décennie. C'est une année de vache maigre pour Moussaka Fernanda qui a du mal à voir le bout du tunnel.
Nous attendions la pluie depuis 6 mois. Avant cela, nous avons eu l'hiver. Quand les pluies sont arrivées, nous avons été soulagés. Mais malheureusement, elles étaient trop fortes. À présent, nous n'avons aucun moyen de nous occuper de nos cultures. Nous n'avons même pas pu aller dans les champs.
Moussaka est seule à nourrir ses 9 enfants. Le climat n'étant pas clément, son mari a décidé d'aller chercher du travail en ville.
Il est parti à cause de la faim. Il fut un temps où il achetait de la nourriture pour les enfants. Il avait un travail saisonnier, mais quand la faim s'est aggravée, il a décidé de partir.
Le changement climatique a des conséquences sur la vie des mères et celle de leurs enfants.
En raison de la séparation ou de l'abandon des familles, nous trouvons beaucoup de familles monoparentales. Ce sont donc les filles qui finissent par aider leur mère d'une manière ou d'une autre. Elles sont donc susceptibles d'arrêter leurs études car elles doivent d'abord subvenir aux besoins de base de la famille.
Les deux filles aînées de Moussaka ont abandonné l'école pour participer aux travaux ménagers. Mais lorsque son aînée est tombée enceinte, sa mère lui a demandé de déménager et de vivre avec le père de l'enfant.
Ma mère m'a dit, tu dois te marier parce que tu ne peux pas m'encombrer avec ça. Je me bats déjà assez avec vous tous, je ne peux pas souffrir davantage avec toi, ton bébé et ton petit ami.
Ce fut une décision difficile, mais Moussaka avait peu d'alternatives. Selon un rapport d'Amnesty International, des dizaines de milliers d'agriculteurs angolais ont été chassés de leurs terres pour faire place à des ranchs de bétail commerciaux. Près de 45 millions de personnes sont confrontées à la famine en Afrique australe.
Le faible accès à Internet continue d'affecter les femmes et les filles africaines, conduisant à leur sous-représentation dans le domaine et les métiers de la technologie. Pour Miki Bondo, cofondatrice de l'ONG In Her Presence, en français En Sa Présence, il est absolument indispensable de leur faciliter l'accès à l'éducation technologique et au digital. Originaire de la République démocratique du Congo, Miki est par ailleurs une élue du gouvernement local de Portland, dans l'état du Maine, ici aux États-Unis. Nani Talani lui a tendu le micro.
On peut reconnaître que beaucoup de femmes ont vraiment pu sortir de l'ombre. Donc on voit un mouvement qui est en train d'être un mouvement positif de la femme. Et la femme est en train de réduire l'écart qui existait dans l'accroissement de l'économie mondiale. Donc maintenant, beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays sont en train de comprendre que nous devons avoir les femmes sur la table de décision. Parce que les femmes, par rapport à leur leadership, nous avons un leadership qui est patient. Par rapport à un certain leadership de CEO, de président, de premier ministre, ainsi cela, tout cela est en train de faire redéfinir la valeur de la femme et valoriser au moins la parité dans le genre.
Vous parlez de la parité, mais pourtant les femmes continuent d'être sous-représentées dans l'industrie technologique. Que doit-on faire pour réduire l'écart et encourager les femmes à embrasser la technologie ?
La modernité et la mondialisation, tout est en train d'être géré par la technologie. Et quand on est affronté à cela, premièrement, c'est l'accès à l'éducation. Donc nous devons avoir accès à l'éducation, nous devons pouvoir valoriser tout ce qu'on est, que j'ai toujours valorisé, c'est ce que je suis en train de mener un combat, même c'est le STEM. Le STEM, donc, c'est tout ce qui est associé à la technologie, sciences, technologie et mathématiques. Et pouvoir avoir une autre manière de redéfinir l'éducation qui est maintenant d'une manière un peu globalisée mondiale. C'est-à-dire revaloriser les talents des femmes, les mettre en premier lieu dans les formations pour que ces talents-là puissent être redéfinis. Comme ça, elles peuvent être maintenant connectées avec les différentes technicités de la nouvelle société. Donc, accès à l'éducation qui est primordial et la valorisation du secteur de l'éducation publique. Parce que quand on voit souvent en Afrique, ce n'est pas toutes les familles qui ont accès à l'éducation privée. Donc, comment est-ce qu'il y a cette valorisation de l'éducation publique pour que les jeunes filles et les femmes qui veulent continuer l'éducation puissent avoir accès à la technologie et pouvoir manipuler cette technicité dans certains domaines.
Au Bénin, de nombreux nombreuses femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est notamment le cas d'Alice Kourayasso, qui s'est lancée dans le stylisme de mode malgré une licence en analyste des projets, un master en statistique et la promesse d'un poste à la hauteur de ses compétences dans un grand cabinet. Ginette Fleuradandé l'a rencontrée à Cotonou.
Sous son apparence frêle se cache une femme énergique qui n'a pas hésité à échanger la sécurité d'une carrière professionnelle bien rangée contre l'incertitude d'une vie d'entrepreneur. Analyste de projet à la base, Alice Kourayasso est économiste, statisticienne diplômée de la faculté des sciences économiques de l'université d'Abomey-Calavi. Elle raconte comment elle a eu le déclic, comment elle est passée d'analyste de projet à une styliste bien connue au Bénin.
De 2015 à 2016, j'ai travaillé au ministère de l'Énergie. J'étais restée à la direction de la programmation et de la prospective. À la fin de mon contrat au ministère, j'ai été recrutée dans un cabinet de la place. Il s'est fait que les heures de sortie et les autres contraintes ne m'arrangeaient pas trop vu que j'avais des enfants de bas âge. Donc, comme j'avais déjà une passion pour la couture, mon mari m'a orientée vers ce domaine.
Entre-temps, chasse gardée des hommes, le secteur de la mode est depuis quelques années pris d'assaut par les femmes. Alice s'est laissée emporter par sa passion pour se tracer un chemin.
Étant au ministère, vu que je portais mes propres créations, j'ai deux de mes collègues qui ont même eu à passer de commandes. Donc en 2017, j'ai commencé ma formation en stylisme et modélisme. J'ai fini en décembre 2018. Je me suis installée en 2019, en avril 2019, et j'ai commencé par travailler avec deux ouvriers.
Mariée et mère de deux enfants, Alice lance en décembre 2019 sa première collection dénommée Audace, au détour d'un défilé de mode entièrement organisé par son époux, Désiré Yasso. Fonctionnaire, il aborde la question sans préjugés.
J'ai pas eu de honte à voir mon épouse travailler sur une machine, quelle qu'elle soit. Donc c'était avec un intérêt vraiment sincère que j'ai voulu accompagner ce qu'elle faisait. Comme on n'avait pas envie qu'elle soit une couturière de rue, mais plutôt une styliste, on a essayé de mobiliser un capital plus acceptable pour lui permettre de démarrer. Elle a un atelier de haute couture qui l'occupe beaucoup. Elle n'a pas le temps de penser à autre chose.
En 2021, soit 2 ans après l'ouverture de son atelier de haute couture, elle fut étonnée du nombre de demandes de formation et fut obligée d'agrandir son entreprise en ouvrant un centre de formation dédié au métier de la mode. Son amie d'enfance, avec qui elle a eu le même cursus scolaire et universitaire, n'est pas étonnée de la voir évoluer dans l'univers de la mode. Nadège Segbedi témoigne.
Elle avait toujours une passion pour la couture. Après, nous allons faire l'université, on a eu le master ensemble. Elle a eu la chance de trouver un cabinet, elle travaillait. Mais un jour, elle m'a dit, je vais faire la couture. Je me rappelle très bien, je lui ai dit, tu vas faire le master, aller faire la couture, tu es sérieuse là. Et elle va te prendre pour une seule couturière. Elle m'a dit, non, moi je veux entreprendre. Je veux montrer qu'on n'a pas besoin avant de gagner sa vie. Mais on peut entreprendre, on peut mieux faire. C'est une personne très déterminée. Quand elle dit, je veux ceci, elle s'est bravée tout pour obtenir. Et c'est ça, moi, personnellement, m'a prouvé en quittant un master en statistique où elle était dans un cabinet pour venir faire la couture, ce qu'elle fait très bien.
Partie d'un simple atelier de couture, elle est aujourd'hui la directrice de l'Institut d'études spécialisées arts et métiers IUSAM Sangopa, qui compte à ce jour une 50aine d'apprenants dont la première promotion sera mise sur le marché de l'emploi dans quelques mois. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Et de père congolais, a trouvé un bon équilibre entre ses engagements familiaux et musicaux aux États-Unis. La jeune mère met tout son cœur et son âme dans ses chansons, animée par le désir de faire une différence auprès de son public. Son statut de maman a influencé sa musique, la poussant à créer des chansons qui véhiculent un message positif. Voici l'histoire inspirante d'Edna Munda. Un portrait réalisé par Lionel Gaïma.
Edna Mugurewera Munda est une chanteuse à la conquête des étoiles, une jeune mère déterminée à poursuivre sa passion pour la musique. En tant que maman, Edna est consciente des difficultés de concilier ses responsabilités familiales avec son amour pour la musique.
My name is Edna Mugorewe-Ramunda.
Je m'appelle Edna Mugorewe-Ramunda et mon parcours musical a commencé avec ma sœur Annie, qui chantait à l'église et remplissait notre maison de musique gospel. Elle nous amenait souvent à l'église avec elle, et c'est ainsi que j'ai commencé à chanter. Cependant, je n'ai jamais vraiment pris la musique au sérieux jusqu'à ce que je rencontre mon mari, qui est ingénieur du son et producteur.
Mais elle a réussi à trouver un équilibre entre les deux.
My musical background and my husband's musical background.
Grâce à mon expérience musicale et à celle de mon mari, la musique est une seconde nature dans notre maison. C'est tellement naturel que nous avons même un studio à domicile depuis longtemps. Ainsi, il nous arrive parfois de mettre notre fille au lit et de nous rendre au studio pour enregistrer jusqu'à 3h du matin. Il a toujours été facile et naturel d'équilibrer notre vie musicale et notre vie de famille. Je n'ai jamais eu le sentiment de devoir choisir entre les deux.
La maternité a eu un impact sur l'approche d'Edna envers la musique ainsi que sur les objectifs de carrière. Cependant, elle a été confrontée à des défis pour trouver un équilibre entre ses engagements familiaux et ses ambitions musicales.
Je crois que mes priorités ont changé depuis que je suis devenue maman. Je dois maintenant mettre l'accent sur ma vie de famille à la maison. Cette nouvelle responsabilité m'a permis de devenir plus patiente et plus organisée. En fin de compte, cela a eu un effet bénéfique sur mon travail car j'ai maintenant une meilleure organisation. Je peux travailler de manière plus efficace.
Pour Edna, devenir une mère a eu une influence considérable sur sa musique et son message, l'incitant à créer des morceaux positifs et édifiants.
I think before I became a mother,
avant d'être mère, je pense que ma musique était plus axée sur l'amour et la douleur, une façon d'exprimer mes émotions brutes, comme une forme de thérapie. Maintenant, je planifie en avance en pensant à quand ma fille écoutera ma musique et à ce que je veux lui transmettre à travers elle. Je cherche à transmettre un message plus positif, plus léger et plus joyeux, même lorsqu'il s'agit de douleur et de chagrin. Je souhaite que ma musique soit une source de réconfort et de bonheur pour elle et que sa perspective soit davantage tournée vers l'optimisme tout en écoutant la tristesse et la douleur.
And I want her to focus more on that perspective than to listen to heartache and pain.
Pour les autres jeunes mères qui poursuivent une passion ou une carrière dans les arts, Edna leur prodigue des conseils en les encourageant à rester concentrés, disciplinés et à solliciter le soutien de leur famille et de leurs amis.
Mon conseil serait de mettre l'accent sur la vie familiale, car si vous avez un foyer paisible, il est beaucoup plus facile de gérer les tâches extérieures. Il est donc important de s'organiser et de communiquer ouvertement avec les enfants sur ce que nous faisons et nos projets, car cela les aide à comprendre notre emploi du temps. Pour ma part, cela a été très utile pour amener ma fille à ses répétitions de danse et de la laisser voir ce que je fais.
Depuis qu'elle est devenue mère, la vision d'Edna sur la musique a évolué, la rendant plus attentive à la création musicale, à la fois expressive, susceptible de résonner auprès de son public.
Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.